Bonjour Jean-François Billetter.
Bonjour.
Nous en sommes déjà au quatrième temps de notre série d'entretiens. Et après avoir évoqué vos années d'enseignement à Genève, où nous sommes toujours dans votre appartement, je me dis qu'il est peut-être temps de quitter l'université.
Quittons-la.
Nous sommes en 1999 et vous décidez que c'est assez.
Oui. J'étais fatigué. J'étais fatigué. Parce que quand on enseigne, on apprend. Et que quand, avec la fatigue et avec le temps, on n'apprend plus, eh bien, on perd le goût de l'enseignement. À la fin, j'étais tellement surmené aussi que je n'avais plus le temps de lire pour me renouveler. Et donc, je me suis dit, à 60 ans, j'arrête. Et voilà.
Et donc, vous commencez à écrire ?
Non, j'ai d'abord commencé à jouir de ma liberté, premièrement. Et puis, deuxièmement, il m'a fallu toute une année pour liquider les papiers, pour finir les travaux d'étudiants qui n'étaient pas terminés. Il a fallu toute une année pour me dégager vraiment. Et puis ensuite, j'ai dit « ouf ». Et ensuite, j'ai laissé venir les choses. Pierre-Étienne Ville, qui enseignait l'histoire chinoise au Collège de France, me disait depuis longtemps « Bilter, si un jour tu veux venir nous raconter quelque chose, tu es le bienvenu ». Mais je n'avais jamais eu le temps. Je me suis dit « bon, ben voilà une chose que je pourrais faire ». Et donc j'ai fait ces leçons sur Zhuangzi, que j'ai présentées au Collège de France, et puis ensuite, elles ont paru chez Alia, puis ensuite de fil en aiguille, comme ça, les choses sont venues, mais il n'y avait pas de projet d'ensemble du tout.
Vous venez de citer Alia, qui n'est pas n'importe quel éditeur, c'est un éditeur français, non pas suisse, totalement indépendant, ce qui est extrêmement rare.
Oui, complètement, oui.
Chez Alia, auquel vous êtes fidèle depuis 25 ans.
Oui.
Pourquoi cet éditeur en particulier ?
Je vais vous dire, là aussi c'est le hasard. C'est que au moment, la dernière année de mon enseignement, on m'avait demandé deux conférences. J'étais fatigué, j'avais pas très envie, mais enfin je les ai faites. Et je me suis trouvé avec ces deux conférences, et je me suis dit, elles ont un certain intérêt, ce serait pas mal de les publier. Mais bi bout à bout, ça ne faisait pas un volume. Enfin, en format normal, disons, ça aurait fait un cahier, mais pas un volume. Et voilà que par hasard, je découvre la petite collection d'Alia. Et je me suis dit, mais dans ce format-là, ben, ça ferait un petit volume. Et donc, je vais à la rue Charlemagne, et je les rencontre, et il lit les deux textes, et il les prend. Et ce sont la Chine trois fois muette. Et à partir de là, et ensuite, il y a eu ces leçons sur Zhuangzi au Collège de France, et puis je les présente à tout hasard à Gérard Bérébi. Il était un peu étonné parce que c'est pas du tout son genre, mais il les a prises et ça a été un deuxième volume. Et à partir de là, c'est une véritable aventure parce que le format de la petite collection m'a donné une espèce de règle de vie, c'est-à-dire que quand je faisais quelque chose, je le faisais au fond déjà en vue d'une publication sous cette forme-là. Et ça me donnait une espèce de règle. C'est comme autrefois, quand vous faites un sonnet, vous savez ce que c'est qu'un sonnet, vous faites des sonnets. Et là, je me suis mis à faire des petits volumes pour la collection de...
D'ailleurs, vos volumes sont de plus en plus petits, Jean-François Billetter, si je ne m'abuse. Un des derniers, Une révolution dans la pensée.
Oui.
Ce sont 50 pages,
oui.
Une soixantaine de pages.
Oui.
Parce que vous arrivez à une forme de concision.
C'est pas tellement ça, c'est pas que je réduis pour arriver à la concision, c'est que j'essaye d'être clair, souvent ce qui raccourcit les textes, et puis Gérard Bérébi continue à les prendre, et donc ça fait des volumes minces, mais qui se situent dans une suite. Et j'ai une chance absolument folle parce que je m'entends avec lui, et il prend ses... Enfin, ça, la décision dépend de lui, bien sûr, chaque fois. Mais en gros, ça a continué comme cela. Et la chance extraordinaire que j'ai, c'est que beaucoup de confrères ont beaucoup de peine à publier. Et même Pierre Ricman, Simon Lesse, qui était devenu très connu, eh bien, il a eu beaucoup de peine et il devait faire du porte-à-porte et aller demander des entretiens chez les grands éditeurs qui le faisaient attendre, qui donnaient un avis des mois plus tard et qui publiaient un an ou deux ans plus tard. Paquet, dans sa biographie, raconte ça très bien. Et j'ai l'immense avantage de m'entendre avec Bérébi, directeur d'Alia, et donc d'être publié au fur et à mesure.
Et puis vous avez la chance aussi d'avoir de nombreux lecteurs. Je crois que vos leçons sur Chuang Tzu font partie des ouvrages d'Alia qui se vendent le plus.
Alors d'après les chiffres qu'ils me donnent, on en est à 33 000 exemplaires.
Donc vous avez commencé par brosser un tableau de la Chine, on l'a évoqué dans le premier épisode, Chine trois fois muette, si on explique un petit peu le titre.
Trois fois muette, j'ai donné ce titre parce que je considère d'ailleurs toujours, que la Chine est muette, c'est-à-dire que les Chinois qui vivent en Chine, on les entend pas parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et le régime les en empêche. Et le régime lui-même ne dit jamais rien d'intéressant, ni sur le présent, ni sur le passé récent, ni sur le passé dans son ensemble. Et donc, culturellement, intellectuellement, c'est comme si la Chine était muette pour nous. Enfin, c'est ça le sens du titre.
Et après donc avoir publié sur la Chine et sur Chuang Tzu, oui, et sur l'art d'enseigner le chinois, où vous, oui, donc avez repris vos notes et, oui, et résumé ce que vous appelez un art d'enseigner.
Oui.
Vous publiez en 2012 Un paradigme.
Oui.
Qui a un statut particulier dans votre œuvre.
Alors, quand je me souviens de la série de tous ces petits ouvrages, j'attribue à Un paradigme et puis à celui qui est venu ensuite, c'est-à-dire Esquisse, au pluriel, une valeur particulière. Parce qu'au fond, les idées que j'ai développées, enfin, auxquelles je suis parvenu, eh bien, pour l'essentiel, elles sont dans ces deux volumes-là. Et ce que j'ai fait par la suite, ce sont des développements.
Oui. On a commencé à l'évoquer dans l'épisode précédent, oui, oui, brièvement, l'arrêt qui vous conduit à l'activité,
oui,
qui vous amène progressivement à élaborer une pensée du sujet.
Oui.
Pourquoi est-ce important ?
Alors là, je fais un grand saut et j'aboutis à ce que j'essaye de faire en ce moment. J'ai découvert un ouvrage par hasard, comme toujours, un petit ouvrage de Léo Strauss qui s'appelle « Nihilisme et politique », qui a relancé ma réflexion, au fond. Et ce qui est central, c'est la notion de nihilisme, qui me paraît extrêmement utile pour expliquer les principaux phénomènes auxquels nous sommes exposés maintenant, et l'idée que, parce que finalement, le nihilisme finit par, les pouvoirs nihilistes finissent par détruire tout ce qu'on a conçu pour les borner, pour borner le pouvoir de façon générale, et qu'il bute à la fin sur une chose qu'il essaye de détruire aussi, c'est le sujet humain, c'est-à-dire c'est la liberté. Et donc, d'où cette grande thèse que j'essaie de développer maintenant, c'est que ce qu'il faut en dernier lieu opposer au nihilisme prévalent, eh bien, c'est le sujet humain. Mais de ce sujet humain, eh bien, il faut avoir une véritable connaissance, en prenant le mot connaissance au sens le plus fort possible. Voilà ce que j'essaye de faire maintenant. Mais tout ça est lié. Ouais.
Dans Un paradigme, vous semblez douter parfois d'y parvenir. Vous dites « Mais arriverai-je à montrer ce que je vois ? J'en doute parfois. À force de tout reconsidérer, j'ai développé une vision des choses qui m'est propre et qui constitue désormais ma pensée. Cette pensée est-elle transmissible ?»
Alors, c'est la question que je me posais à ce moment-là. Mais elle n'était pas résolue, et c'est pour ça que j'ai continué à travailler pour tenter de non seulement de développer cette pensée, mais de la communiquer. Et il y a une véritable difficulté, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur laquelle je bute. Quand on me dit « Que pensez-vous ? Quelles sont vos idées ?» Ben je dis « Ce sont des idées, oui, mais ce sont des idées qui ne prennent corps ou qui ne prennent vive et qui ne viennent utiles que si vous vous livrez au même travail d'observation que celui que j'ai fait. Ce qui demande du temps. Et donc, ça n'est pas quelque chose que l'on peut communiquer comme un produit fini.
Si je reprends le fil chronologique de l'apparition de vos ouvrages, donc en 2012, Un paradigme, qui est une première tentative d'élaborer cette pensée que vous venez de décrire à gros traits.
Oui.
2012, c'est aussi l'année de la mort de votre femme.
Oui.
Qui a un choc terrible que vous racontez dans un autre ouvrage, mmh, qui s'appelle Une autre Aurélia.
Oui. Quelque temps après la disparition de Wen, mon épouse, m'est venue l'idée. Je reprenais des carnets, j'y retrouvais des choses. Retrouvant par hasard des choses que j'avais notées dans des carnets, je me suis dit, mais au fond, après tout, l'expérience qui ressort de ces notes n'est pas purement personnelle. elle peut intéresser d'autres personnes qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas connu Wen, mon épouse. Ce sont les réactions humaines, sans doute habituelles, de quelqu'un qui a perdu son conjoint. Et donc, je me suis dit, enfin, pourquoi pas en faire un choix, là, et les mettre dans l'ordre et en faire une petite publication. Et puis, j'ai proposé ça à Gérard Bérébi, qui l'a publié. Mais vous notez que c'est un choix de notes.
Et je trouve que la typographie est très importante dans cette...
Ah oui.
Dans cet ouvrage.
Oui, bien sûr.
Parce que parfois, il n'y a que quelques jours, parfois plusieurs semaines entre...
Oui, parce que c'est discontinu, c'est complètement discontinu. Ce sont des notes qui s'étendent sur, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Et donc, il fallait que dans la typographie, il soit manifeste que ça n'était pas du continu.
Ça donne un ouvrage bouleversant, non pas au sens pathétique du terme, mais
oui.
Un ouvrage d'une grande beauté, parce que vous racontez cette disparition qui est une disparition physique,
oui.
Mais qui est en même temps une présence qui dure.
Oui, mais je pense que c'est ce qui arrive, je pense, à tous les gens qui sont dans mon cas. Et j'ai vraiment fait ça dans cet esprit. D'ailleurs, je le dis dans les lignes d'introduction. Je crois que c'est de portée générale. Et les réactions que j'ai eues de temps à autre m'ont confirmé dans cette idée. Tout à fait. Il s'agit de la réaction du sujet à une perte de cette nature-là. Et alors, pour... Il a fallu que je fasse un texte d'introduction. Et dans le texte d'introduction, je décris les circonstances de cette disparition.
Et vous écrivez, notamment 10 jours après la mort de Wen, le 19 novembre 2012, vous écrivez « La mort n'existe pas, il n'y a que la vie qui cesse. Le oui. mal que font tous les autres discours. »
Oui, alors il y a bien... Oui, c'est ça. Il y a bien sûr là aussi une part de réflexion générale. C'est d'ailleurs un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup de gens que je connais. C'est la fin de la vie. Vous savez qu'en Suisse, on est nettement plus avancé dans ce domaine qu'en France. Et je trouve qu'on ne l'est pas encore assez. Je trouve que le droit de... D'ailleurs, là-dessus, il y a un texte de Nietzsche que j'ai traduit, mais je ne sais plus dans quel volume. Vous vous en souvenez peut-être. Parce que là,
c'était... une révolution dans la pensée.
Voilà, c'était de nouveau des questions de traduction. Parce que la traduction m'intéresse beaucoup. J'étais tombé sur des traductions Nietzsche qui paraissent dans la collection Folio actuellement, qui m'ont paru vraiment mauvaises. Et j'y suis sensible puisque je suis bilingue et que je connais Nietzsche. Et voulant faire la démonstration sur un exemple de la mauvaise qualité de cette traduction qui est répandue en France, j'ai pris un texte, mais j'ai pas pris n'importe lequel. Et j'ai pris ce court texte de Nietzsche sur la mort volontaire, qui est la mort rationnelle. Et je suis content d'avoir fait ça.
En tout cas, c'est certainement pas un livre sur le deuil.
Ah ben non.
Parce qu'on fait pas... Pourquoi ? Parce qu'on fait pas son deuil comme on fait ses dents ou comme on fait ses nuits, c'est ça ?
Non, quand on est personne, enfant. La personne reste présente. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on y réfléchit ensuite à ce moment-là. C'est que la présence d'une autre personne, lorsqu'elle est réellement là, vivante, elle comporte déjà une grande partie d'imaginaire. Mais ça, on n'y réfléchit pas, on ne s'en doute pas. Mais lorsque la personne physiquement n'est plus là, l'imaginaire continue, mais c'est le même. Et donc, il y a continuité. Et je pense que quand on a une certaine exactitude dans l'observation et dans la notation, eh bien, on peut saisir tout ça. Je me souviens, après la disparition de Wen, j'avais une voisine ici qui disait « Mais comment supportes-tu la solitude ?» Et puis je me disais « Mais c'est idiot de dire ça. Elle est présente. Simplement, elle est présente autrement. » Seulement, voilà, les gens qui ne se sont pas trouvés dans cette situation-là, eh bien, ils n'ont pas approfondi ça.
D'ailleurs, ça s'appelle une autre Aurélia en référence à Gérard de Nerval,
oui,
qui
oui.
avait exploré lui aussi, qui était à la recherche de l'aimer,
oui.
qui se dérobait à lui,
mais
à
oui.
la frontière entre le rêve et,
oui,
et la vie, d'où le sous-titre.
D'où le titre.
D'où le titre.
Mais oui.
vous avez une sorte de fascination, comme, est-ce qu'on peut dire ça, pour l'entre-deux ?
À la Nerval, non. Nerval, c'est quelqu'un d'infiniment sympathique, mais les mondes religieux multipliés à l'infini, le romantisme allemand mêlant tout ça, ça n'est pas du tout mon affaire. Il a une prose merveilleuse, mais tout le côté spiritualiste de Nerval, je n'aime absolument pas.
Mais en revanche, la recherche de l'état limite...
Je dirais que ce n'est pas la recherche de l'état limite, c'est plutôt l'observation de l'état limite et les leçons qu'on peut en tirer quand on le saisit exactement et qu'on essaie de le comprendre.
Si vous parlez, par exemple, vous parlez beaucoup d'hypnose.
Alors ça, c'est une autre aventure. Oui.
Qu'est-ce que vous avez tiré de l'hypnose ?
Alors quelque chose absolument essentiel, c'est que bon, j'ai traversé une grosse crise. L'hypnose, un ami m'a aidé. L'hypnose a joué un certain rôle, mais cet ami à Lausanne invitait François Roustan, qui à cette époque-là s'étant dépêtré du lacanisme, avait découvert l'hypnose, a écrit des livres merveilleux dessus, que j'ai tout de suite découvert. Et donc j'ai fait la connaissance de François Roustan parce qu'il était invité à Lausanne et qu'il était très isolé à Paris. Alors il était content qu'on l'invite ici. Et toutes ces choses-là se combinant, j'ai un peu découvert ce qu'on appelle l'hypnose, ce qui est un terme idiot parce que ça suppose le sommeil, mais c'est pas du sommeil. Et à partir de là, j'ai développé une conviction que je garde, c'est que découvrir ce qu'on appelle l'hypnose, terme idiot, mais que, donc, dont on a de la peine à se débarrasser, pose des questions sur le plan de la pensée, sur le plan philosophique, qui sont fondamentales. Alors que, hélas, l'hypnose, depuis qu'elle s'est répandue dans les milieux médicaux, c'est devenu une technique utilisée dans les milieux médicaux.
Ou une technique de manipulation.
Plus anciennement aussi, il y a aussi ça. Mais les questions fondamentales que pose l'hypnose, eh bien, j'ai rarement rencontré des gens qui partagent ma conviction, qu'elle pose des questions sur le plan de la connaissance de ce que c'est que l'être humain et le sujet. Mais ça continue à me travailler. Et alors, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que l'un des rénovateurs de l'hypnose thérapeutique, c'est Erickson aux États-Unis. Et de Erickson aux États-Unis, il a obtenu des guérisons miraculeuses. Et quand on l'interrogeait sur ce qu'était l'hypnose, il n'a jamais voulu répondre. Il a toujours répondu en disant « Tout ce que je peux vous dire, non, je peux rien vous dire, mais je peux vous raconter les entretiens que j'ai eus avec des patients. » Et il y a un recueil de ces entretiens. Je lis ces entretiens et d'autre part, je connais des dialogues qui figurent dans le Zhuangzi. Et je vois que c'est la même chose, avec les mêmes effets. Et donc, ça, c'était une grande découverte. Et cette découverte a prouvé deux choses pour moi. C'est d'une part ce dont j'étais déjà convaincu, que ce qu'on appelle l'hypnose, c'est un phénomène entièrement naturel et entièrement universel, premièrement. Et deuxièmement, que les dialogues du Zhuangzi qui ressemblent tellement à ceux d'Erickson, eh bien, que c'était une pratique de cet ordre-là. Or, dans le Zhuangzi, il y a des parties qui sont manifestement philosophiques, qui ont été beaucoup commentées, parce que ça se présentait comme de la philosophie.
Zhuangzi, dont on peut rappeler les dates, s'il vous plaît.
Le Zhuangzi, il est mort vers 280 avant notre ère, en gros. Mais ce qu'on appelle le Zhuangzi, c'est fait de briquet de broc, et ça a une histoire compliquée. Et les dialogues qui ressemblent tant à ceux d'Erickson dans le Zhuangzi, eh bien, ils n'ont jamais été commentés, parce que vous savez que le Zhuangzi, c'est un classique qui a été commenté à l'infini depuis un millénaire et demi.
Qui continue à être étudié en Chine.
Oui, bien sûr. C'est comme la République de Platon ou comme le Nouveau Testament. Hein, bon. Et ces dialogues-là, ils n'ont jamais été commentés parce qu'au fond, les commentateurs, depuis un millénaire et demi, ne savaient pas qu'en faire. Et donc, ils s'en tiraient en disant « c'est de l'invention, c'est de la littérature ». Et ils disaient « dans le Zhuangzi, il y a de la partie philosophique, parce qu'il y a les termes philosophiques ». Et puis, il y a ces dialogues, et ces dialogues, bon, bah, c'est de la littérature, c'est de l'invention. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, dans l'université chinoise, partout, il y a des spécialistes de Zhuangzi philosophes, et puis il y a les spécialistes de Zhuangzi auteurs, inventeurs, d'histoires amusantes. En fait, ce sont ces dialogues-là. Donc vous voyez la double découverte. Et la découverte de l'intelligence de ces dialogues, parce que ressemblant à ceux d'Erickson et donc de l'hypnose, eh bien ça, je l'ai développé amplement et en détail dans les études sur Zhuangzi, parce qu'il y a les leçons que vous connaissez, mais il y a les études.
Et les études, enfin, il y a aussi les notes.
Le principal, oui, puis en plus il y a les notes. Mais dans les études, le principal apport que j'apporte dans les études, c'est cette découverte-là.
C'est amusant parce que dans vos ouvrages, on constate parfois au détour d'une note, par exemple, précisément un développement sur l'hypnose.
Oui.
Où vous, dans une autre, vous allez affiner le développement d'un précédent ouvrage où vous ramassez en deux phrases, l'air de rien, la société du spectacle de Debord et les commentaires, 20 ans après. Vous ramassez en deux phrases plusieurs siècles d'histoire et ce n'est jamais pédant. Alors je me demandais, est-ce que vous visez quelque chose comme ça de très épuré?
Non, je ne dirais pas ça. Non, je ne dirais pas ça. C'est pour, je dirais c'est par honnêteté simplement, parce que je ne vis pas tout seul. Je dois beaucoup de choses à d'autres gens. Et puis je pense que c'est utile parfois pour les lecteurs, pour certains lecteurs en tout cas, c'est leur donner des indications, des suggestions de ce qui existe aussi.
Je vous confirme que c'est très utile.
Oui.
Ce qu'on retrouve partout, cette pensée du sujet qui entre en résonance avec divers auteurs et qui finit par devenir assez familière.
Oui, d'ailleurs, dans ce que j'écris maintenant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai des idées comme ça qui me font sourire. Je ne sais pas si je les réaliserai. J'aimerais faire, par exemple, un grand chapitre à la fin qui s'appellerait le magasin des philosophies dépassées. Mmh. Et donc, je donnerais des noms de grands philosophes et je dirais en quelques mots en quoi ils me paraissent dépassés précisément, étant donné ce que je pense maintenant. Ce serait une façon amusante de créer un musée des pensées dépassées, à mon gré, à mon avis. Mais musée veut dire aussi conserver.
Donc contrairement à ce que vous sembliez dire dans Plan Fixe, une émission,
oui.
vous disiez avoir le sentiment de tout avoir dit.
Oh non. Enfin, il faut que je vous réponde en deux temps. D'une part, quand je prends Paradigme que vous citiez tout à l'heure, je suis étonné de voir à quel point les idées qui m'importent aujourd'hui y sont déjà. Et que donc je pourrais très bien l'arrêter. C'est une chose. Mais je reste un être vivant et ça continue à penser. Donc mes idées travaillent. Et donc il y a des développements qui me viennent. Et parfois, je les trouve suffisamment intéressants pour tenter de formuler les choses. Par exemple, la découverte de cette notion de nihilisme que je dois à Léo Strauss, ça relance un peu mes idées et ça les relance dans une direction nouvelle. Et donc je me mets au travail.
Lorsque la tristesse était trop grande après la mort de Wayne et quand vos émotions vous débordaient, comme
oui.
vous dites, vous dites avoir trouvé du réconfort en traduisant Lichtenberg, titre d'un ouvrage que vous avez publié sous
Mais
votre
oui.
nom, alors oui. qu'il consiste principalement en une traduction.
Oui, oui, d'ailleurs on me l'a reproché. Le journaliste du Monde disait que c'était une imposture et que donc il ne dirait pas un mot de ce petit livre parce que j'avais eu le culot de le mettre sous mon nom alors que c'est une traduction.
Vous aviez besoin de revenir à l'allemand à ce moment-là ou
non,
comment vous expliquez
mais non, mais là aussi, c'est le hasard. Je me vois encore à un moment donné à une terrasse de café là à la campagne, à un moment où je me disais, donc après la mort de Wen, je me disais, qu'est-ce que je fais maintenant? J'étais entièrement disponible. J'avais pas de projet immédiat. Et puis je me suis dit, tiens, il y a Lichtenberg, que j'aime beaucoup, que je lis depuis mon adolescence, et qu'on connaît si mal en France. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas quelque chose pour m'occuper? Et je l'ai fait. Voilà. Et parce que Lichtenberg, c'est un grand classique quand on est de langue allemande, et c'est une mine. Et je le lis depuis l'époque du gymnase, du lycée. Et puis, dans les deux gros volumes qui font 1600 pages sur papier Bible que j'ai là, j'avais depuis longtemps marqué des passages qui m'intéressaient particulièrement. Alors, j'ai pas relu les 1600 pages. J'ai simplement fait un choix des passages que j'avais marqués depuis longtemps. Je les ai traduits. Et puis j'ai fait ce petit livre et j'ai trouvé que j'ai fait une bonne action parce que Lichtenberg est un grand esprit qui a été très mal introduit en France.
Je ne suis pas loin de penser, écrivez-vous dans
oui.
la note liminaire de Lichtenberg, que les passages que j'ai réunis ici contiennent en filigrane une sorte de discours de la méthode.
Oui.
Qui montre non point, comme celui de Descartes, comment parvenir à la certitude,
voilà.
mais comment se maintenir dans l'incertitude, celle qui rend la pensée mobile, curieuse et féconde. Lichtenberg proclame comme Descartes que la pensée appartient à chacun, mais montre beaucoup mieux que lui comment l'exercer?
Et voilà. Eh bien, je souscris entièrement à ce que j'ai écrit.
D'ailleurs, il y a beaucoup d'écho quand on lit Lichtenberg à vos propres développements.
Mais bien sûr, parce qu'il m'a accompagné pendant toute ma vie. Et je continue mon affection. Vous savez qu'il y a des gens qu'on lit beaucoup et qu'on adopte et qui deviennent de vrais amis. Et Lichtenberg s'en est un.
Il se demande par exemple, Lichtenberg, d'où me viennent les pensées que je note ici?
Oui, oui.
Ou encore, c'est une honte, la plupart de nos mots sont des outils utilisés à tort et à travers qui sentent la saleté dans laquelle les propriétaires précédents les ont traînés.
Oui, oui. Parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'il est extraordinairement perspicace et en même temps, il est extraordinairement heureux dans l'expression. Et puis, j'apprécie beaucoup les auteurs. Moi, j'apprécie beaucoup les lectures discontinues. Moi, je ne lis jamais de romans parce que ça m'embête qu'on m'entraîne dans une fiction que je dois suivre jusqu'au bout. Je suis trop indiscipliné pour ça. Donc, pas de romans. Mais des œuvres comme celle de Lichtenberg ou bien les pensées de Montesquieu, par exemple, elles me ravissent parce que dès que j'y entre, ça me suggère quelque chose et ça crée de la conversation.
Vous avez sans doute pas lu de bons romans.
Je n'écoute pas la radio et je ne lis pas de romans.
Et vous ne commentiez pas l'actualité non plus quand vous étiez professeur, avez-vous
Alors
dit
si,
quelque
quand
part.
J'étais professeur, oui.
Si.
Mais pas
oui.
Dans les journaux.
Oui.
Et parce que là aussi, c'est une histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque de la révolution culturelle, enfin à l'époque où j'ai commencé à Genève, on savait si peu de choses sur la Chine que j'en savais un peu plus. Parfois, que les journalistes. Et donc, il est arrivé que des journalistes de la télévision suisse romande, comme ça, m'interrogent. Parce qu'à l'époque, j'en savais un peu plus. Mais il y a longtemps que c'est fini, ça. Et maintenant, commenter l'actualité chinoise, c'est un métier en soi.
Vous êtes, comme Lichtenberg, à mon sens, un homme des Lumières, en fait, Jean-François Billetter.
Ah, ça, oui. Oui, oui, ça,
C'est donc un homme des Lumières que nous écouterons encore dans le dernier épisode de cette série d'entretiens, déjà. Nous raconter son projet pour l'Europe demain en miroir de ce qui se passe ailleurs et pas seulement en Chine. À demain, Jean-François Billetter.
À demain.
À voix nue, avec Jean-François Billetter, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposés par Thibaut Henneton pour France Culture à retrouver sur le site et sur l'application Radio France.